Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Chapitre 1 du prologue En mer, de la fille du pirate. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. À ma mère. Prologue En mer. Chapitre 1. Range à carguer la grand voile! À peine ce commandement fut-il transmis par le porte-voix du capitaine et répété par le sifflet du maître de manœuvre que 5 matelots s'élancèrent sur les échelles de corde. Mais au même moment, une rafale épouvantable enveloppa le brick comme dans une trombe et deux fois successives le courba tribord à bâbord, au point que les vagues bondirent par-dessus ses lisses.
« Amenez les huniers sur le pont !»
cria le capitaine François d'une voix de stentor. L'ordre se perdit dans le fracas de la tempête, et il n'était pas articulé qu'une seconde colonne d'air fondit sur le navire avec la rapidité de la foudre, brisa le perroquet du grand mât, les cacatois du mât de misaine, et emporta les toiles qui restaient dehors. Un mousse, cramponné à l'extrémité d'une vergue, où il s'efforçait de fixer la voile avec les rabans de ferlage, fut enlevé par le tourbillon et tomba à la mer. Cet accident passa inaperçu au milieu de l'anxiété générale. Le vaisseau penchait affreusement sur le côté et menaçait de s'engloutir.
« À la barre !»
tonna le porte-voix. Le chef de timonerie y était déjà.
« Elle ne gouverne plus, capitaine »
s'écria-t-il sourdement.
« Bas le grand mât !»
5 minutes après, l'arbre, sapé à sa base, s'abattait avec un horrible craquement. Déjà le brick se relevait lorsqu'un autre coup de vent faillit le submerger de nouveau. La position était désespérée. Il n'y avait plus à hésiter. Le commandant le comprit. Assis à son banc de car, il avait surveillé avec un sang-froid merveilleux les progrès de l'ouragan, et quand il vit qu'il ne lui restait qu'un moyen de sauver son vaisseau, il n'hésita pas à l'employer.
« Rasez tout ! »
s'écria-t-il. Puis, le bruit cadencé des haches frappant à coups redoublés le pied des deux derniers mâts se joignit au mugissement des éléments en furie, et bientôt le navire flotta au gré des flots. Cependant la tempête se calma peu à peu. On renaissait à l'espérance lorsque, tout à coup, un calier parut sur le pont.
« Nous faisons haut !»
dit-il au capitaine qui se tenait sur le gaillard d'arrière, debout, immobile, les bras croisés sur la poitrine.
« Grille les pompes !»
ordonna l'autre, sans qu'un muscle de sa face bougeât.
« Où est la voie ? »
demanda-t-il ensuite au calier.
« Dans la soute aux biscuits, 3 pieds de bordage en dérive.
Tout le monde aux pompes !»
Chacun s'empressa d'obéir, et au bout d'une heure, les pompes commencèrent à franchir. Alors les calfats descendirent dans la cale et parvinrent à réparer les principales avaries. Mais la nuit était arrivée, et il fallut remettre au lendemain le soin de s'orienter. Fin du chapitre 1 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en septembre 2010. Chapitre 2 de Prologue, En mer, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Le brick qui venait, grâce à l'habileté de son capitaine, d'échapper à cette épouvantable tourmente, s'appelait l'Alcyon. Parti de Marseille avec un chargement de vin pour la Louisiane, il avait été chassé de sa route par des vents contraires et poussé sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. Il portait une 20aine de passagers seulement à son bord. L'un de ses passagers, jeune homme de 25 à 28 ans, était fils de l'armateur à qui appartenait l'Alcyon. Son père l'envoyait à la Nouvelle-Orléans pour y établir un comptoir. C'était le dernier enfant de quatre qu'avait eu l'armateur. Deux étaient morts à la fleur de l'âge, un autre, l'aîné, avait disparu dans son adolescence, et jamais depuis on n'en avait eu de nouvelles. On supposait généralement qu'il s'était noyé. Fin du chapitre 2 du prologue, enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en septembre 2010. Chapitre 3 du prologue, en mer, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Pendant la tempête, Charles, sur l'ordre du capitaine, était resté dans la grande cabine. Mais quand le danger eut cessé, il monta sur le pont, où il demeura le reste de la nuit, en conférence avec les officiers. Le lendemain matin, une voile parut à l'horizon. Cette vue ranima le courage défaillant des malheureux naufragés. Aussitôt on cessa de travailler à un radeau, dont on avait entrepris la construction, avec des espars et des vergues de rechange, pour établir des signaux. Ils ne furent que trop bien distingués. Une heure s'était à peine écoulée quand un navire silla dans les eaux de l'Alcyon. C'était une longue corvette, noire comme de l'encre, couronnée d'une bande rouge sanglant. Nul pavillon ne flottait à sa drisse, mais des flammes noires ornaient ses cacatois. Le capitaine de l'Alcyon, qui cherchait à reconnaître la corvette, à l'aide de sa longue vue, fronça soudain les sourcils et frappa du pied. « Qu'y a-t-il donc, monsieur ?» demanda Charles, attribuant ses mouvements à la mauvaise humeur. « Rien de bon, rien de bon. Lieutenant !» Un officier s'approcha. « Voyez, » dit le capitaine en passant la lunette à son second. Dès que celui-ci eut regardé, il pâlit. « Le corbeau » murmura-t-il. « Le corbeau !» répétèrent, en se signant, des matelots qui se trouvaient près du lieutenant. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» dit Charles, frappé de la stupeur qui se peignait sur le visage des assistants. « C'est le corbeau !»« Mais encore, capitaine !»« Allons, il faut nous préparer à mourir. Avoir traversé le grain pour tomber sous la griffe du corbeau mille sabords !»« Mais, » persista le fils de l'armateur, « expliquez-moi au moins de quoi il s'agit. »« Il s'agit, monsieur, » répliqua le vieux marin, « de faire vos dispositions testamentaires. Tenez, voici le corbeau qui croasse, comprenez-vous » Comme le capitaine prononçait ces mots, un éclair illumina les ondes de l'Atlantique, puis une détonation se fit entendre et deux boulets ramés balayèrent le pont de l'Alcyon. « C'est un corsaire !» s'écria Charles avec impétuosité. « Il faut nous battre ! Nous avons des armes et des munitions !» Le capitaine haussa les épaules. « Une embarcation à la mer » ordonna-t-il. Quand le canot eut été mis à flot, le commandant y descendit, accompagné de quatre vigoureux rameurs. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? » répétait Charles, étonné d'un incident aussi extraordinaire. « Cela signifie, monsieur, que dans une heure nous servirons probablement de pâture aux requins, » lui répliqua le troisième. « Pourquoi ne pas nous défendre ? Se défendre contre le corbeau ? Examinez un peu cette mâchoire. » Fin du chapitre 3 du prologue, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 4 du prologue, en mer, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La corvette, poussée par une fraîche brise nord-ouest, nageait rapidement, toute voile déferlée, depuis ses royales jusqu'à ses focs et ses bonnettes hautes et basses. C'était un magnifique navire de guerre cambré, svelte, élancé comme un yacht, portant fièrement son encolure et plus fièrement encore ses trois flèches, qui ployaient comme des baleines sous le fardeau de ses toiles gonflées. À la proue, un immense corbeau, les ailes déployées, semblait prêt à fondre sur sa proie. Deux caronades, du plus fort calibre, avançaient leur gueule béante au-dessus de l'envergure aux menaçants volatiles, perchés immédiatement sous le beaupré. Les 20 sabords du corbeau étaient garnis de 20 canons. La gueule de ces 20 canons avait été peinte en rouge, comme la ligne de la précinte. Sur le pont, au pied des mâts, se tenaient des groupes d'hommes armés jusqu'aux dents. Tous étaient vêtus de chemises rouges, à large collet rabattu, bordé d'un filet noir, et de pantalons gris de fer, serrés à la taille par une ceinture de cuir, dans laquelle étaient passés des pistolets, un poignard et une hache à double tranchant. Ils avaient la tête et les bras nus. Au moment où le canot détaché de l'Alcyon approchait du corbeau, ce dernier amenait sa voilure et préparait ses grappins d'abordage. Le capitaine François est là, et peu après son esquif était hissé par les palans du corbeau. Un homme se promenait seul sur la dunette. Il avait la physionomie dure, le visage bronzé, les yeux pleins d'un feu sombre et une épaisse barbe noire. Sa stature était élevée, ses membres noués à des attaches souples, nerveuses, ses mouvements brusques, impérieux. Un chapeau de toile cirée, sans ornement, couvrait son chef, mais sa veste en velours brun, ainsi que son pantalon, de même étoffe, étaient galonnés d'argent. À son côté pendait un sabre turc, et à la main droite, il tenait un porte-voix. Ce personnage paraissait avoir 30 ans environ. Le capitaine de l'Alcyon marcha bravement à lui.
« Comment s'appelle ta coquille de noix ?»
fit le pirate, avec un accent gascon très prononcé.
« L'Alcyon. »
« De quoi se compose la cargaison ?»«
De vin. »
« Et puis ?»« Des conserves. » « As-tu des passagers ?»«
Une 20aine, pour lesquels je suis venu réclamer votre pitié. »
Le forban sourit ironiquement.
« Où allais-tu ?»«
À la Nouvelle-Orléans. Mais le mauvais temps. »
« Et tu venais ?»«
De Marseille. »
« Ah ! De Marseille !»
fit l'autre avec une certaine émotion. Ensuite, il se tourna, leva un doigt en l'air, et 4 hommes se jetèrent sur le capitaine François, le terrassèrent et lui garrottèrent les pieds et les poings. Les rameurs qui l'avaient suivi subirent le même sort. Fin du chapitre 4 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 5 du prologue « En mer » de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Déjà le corbeau accostait l'Alcyon. Le premier de ses vaisseaux mit en panne et amarra le second à ses flancs. Les flibustiers se précipitèrent sur leur victime comme des vautours sur un cadavre. Nul parmi les matelots du bâtiment marchand n'osa leur opposer de résistance. La terreur qu'inspirait le nom seul du corbeau avait glacé d'effroi les plus braves. Tous furent liés et transbordés, ainsi que les passagers, à l'exception du fils de l'armateur. Charles, maudissant la lâcheté de ses gens, s'était armé d'une paire de pistolets et, adossé au gouvernail, il menaçait de brûler la cervelle à quiconque tenterait de s'emparer de sa personne. D'abord intimidés par cette attitude déterminée, les forbans reculèrent. Puis ils se ruèrent, comme des furieux, contre l'intrépide jeune homme. Mais celui-ci fit feu de ses 2 coups, et 2 pirates tombèrent. Leurs compagnons poussèrent un cri de vengeance et fondirent en masse sur Charles, qui, sans perdre son sang-froid, s'était emparé d'une barre de cabestan et la faisait voltiger autour de lui avec une redoutable dextérité. Déjà son levier avait mis hors de combat nombre des assaillants, lorsqu'un officier du corbeau, impatienté de cette lutte compromettante pour les siens, épaula une petite carabine, ajusta le fils de l'armateur et lâcha la détente. Atteint au-dessous de l'omoplate, Charles laissa choir la barre de cabestan dont il s'était fait un si formidable auxiliaire et s'affaissa sur le pont. Fin du chapitre 5 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 6 du prologue « En mer » de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Alors commença le pillage de l'Alcyon. Mais tout s'accomplit dans le plus grand ordre. Une discipline de fer courbait la nature sauvage de ces démons à face humaine. La cargaison du navire capturé passa rapidement sur le navire captureur. Ensuite, tous les individus trouvés à bord de l'Alcyon, depuis le capitaine jusqu'au dernier mousse, furent liés 2 à 2 et jetés à la mer avec un boulet de 36 au pied. En accomplissant cette affreuse exécution, les matelots du corbeau ne riaient,
ni ne gémissaient. Ils étaient calmes, insensibles. Pour eux, ces meurtres n'avaient rien d'odieux. C'était une coutume, un devoir, une nécessité. D'ailleurs, c'était la règle. Chaque fois que le corbeau faisait une prise, et cela arrivait fréquemment, nul ne recevait quartier, et pas un des marins engagés sur les paquebots transatlantiques ne l'ignorait. Aussi la réputation de la corvette noire était-elle en harmonie avec l'épouvante que son équipage inspirait. Ordinairement, le corbeau croisait dans le golfe Saint-Laurent, sur la route d'Europe en Amérique, et, comme disaient les matelots, qui de près l'avait vu, plus ne le revoyait. Fin du chapitre 6 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 7 du prologue En mer de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Il était midi. Le soleil, voilé depuis le matin par de légères brumes, perçait à l'orient. Aux teintes blanchâtres de l'atmosphère succédait peu à peu un azur limpide dont les réverbérations sur la nappe aqueuse se doraient aux tièdes rayons de l'astre du jour. La nature semblait sourire en déployant ses grandeurs célestes et marines. L'homme s'élevait à la contemplation de ce beau spectacle. Rien, à notre avis, ne parle plus éloquemment à l'esprit et au cœur que le tableau du ciel et de la pleine mer. Immensité sous immensité, mystère contre mystère. Où suis-je? Que suis-je? Ces deux questions se pressent sur vos lèvres. Soyez chrétien, musulman, païen, idolâtre, déiste, panthéiste, polythéiste, rationaliste, matérialiste, nihiliste, soyez ce que vous voudrez. Si votre vue n'a plus d'autre limite que le firmament et l'eau, vous rougirez de votre petitesse, et un moment, une minute, une seconde, vous douterez. Non, il n'y a pas de croyance humaine qui résiste à l'infini. Notre nature est trop bornée pour cela. En tout, pour comprendre, pour être fort, il nous faut du tangible, du palpable, du malléable. Nous nous impatientons malgré nous, contre ce qui cesse de frapper nos sens. Et cette impatience nous amène à dire avec Montaigne « Que sais-je ?» Puis avec Shakespeare « Suis-je ou ne suis-je pas ?» Fin du chapitre 7 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010. Chapitre 8 de prologue En mer de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. La nuit vint. Nuit calme et poétique. À la voûte céleste couraient des petits nuages diaphanes, derrière lesquels la lune mirait son disque argenté. Plus unie qu'une glace était l'océan, réfléchissant, dans sa transparence, la coupole de l'Empyrée. Ô nuit d'amour, de langueur, de volupté. Cependant une masse sombre, informe, se dressait au milieu de l'Atlantique. L'onde clapotait à petit bruit autour et formait de légères franges d'écume qui allaient en dégradant insensiblement et finissaient par se confondre dans le bleu de la plaine liquide. Cette masse, c'était la carcasse de l'Alcyon. Après avoir dépouillé le brick, les corsaires l'avaient abandonné à la grâce de Dieu. Et toujours l'onde clapotait à petit bruit autour et formait de légères franges d'écume qui allaient en dégradant insensiblement et finissaient par se perdre dans le bleu de la plaine liquide. Tout était morne, silencieux à bord de l'Alcyon. Pauvre navire, si gai la veille, si fringant, si animé. On eût dit d'une tombe placée sur une autre tombe. Mais écoutez, ce n'est pas un murmure des vagues. Ce n'est pas un soupir de la brise, pas le cri d'un oiseau de nuit. C'est un gémissement humain. Et toujours l'onde clapote à petit bruit autour de l'Alcyon et forme des franges d'écume neigeuse qui vont se dégradant et finissent par se perdre dans le bleu de la plaine liquide.
c'est un gémissement humain. Je croyais pourtant que le corbeau n'avait pas laissé créature vivante à bord de l'Alcyon. Mais le gémissement recommence. Un homme se soulève péniblement près du gouvernail. Il passe la main sur son front. Il interroge ses souvenirs. C'est Charles, c'est le fils de l'armateur marseillais. Et toujours, l'onde clapote à petit bruit autour du brick et forme de légères franges d'écume qui vont se dégradant peu à peu et finissent par se fondre dans le bleu de la plaine liquide. Fin du chapitre 8 du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010.
Chapitre 9 du prologue En mer de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9.
Oui, c'était Charles. Notre brave jeune homme n'avait pas été grièvement blessé. À son évanouissement, il devait la vie, car un lambeau de toile étant tombé sur son corps, peu après sa chute, et l'ayant recouvert, les forbans n'avaient plus pris attention à lui. En recouvrant la connaissance, il se sentit très faible, mais, à mesure que ses forces revenaient, sa mémoire se faisait jour. Il se traîna à sa cabine, où par bonheur il trouva quelques provisions négligées par les bandits. Il mangea modérément et retourna se coucher sur le couronnement. Deux jours après, un bateau pilote le recueillait et le transportait à Halifax. Il écrivit aussitôt à son père. La perte successive de plusieurs bâtiments avait ruiné celui-ci, qui répondit qu'il partait pour les Grandes Indes afin d'y tenter fortune. Désormais, Charles était sans ressources. Mais il était plein de force et d'énergie. L'adversité le trouva inébranlable. S'étant rendu à Québec, il y entreprit un petit commerce et se maria avec une Canadienne. Elle était belle et aimante. Durant quelques années, Charles jouit d'une félicité sans nuages. Par malheur, le sort, acharné à sa poursuite, lui ménageait un dernier coup. Sa femme le rendit père et mourut dans les douleurs de l'enfantement. C'en était trop. Charles ne put survivre à son affliction. Bientôt, il suivait son épouse au tombeau et laissait sur cette terre de souffrance une orpheline nommée Angèle. Angèle avait sur l'épaule gauche une tache de rousseur ayant la forme d'un papillon. Fin du chapitre 9 du prologue. Fin du prologue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010.
Chapitre 1 de la première partie, Le Chartier, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Prenez-le à Londres, à Paris, à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à New York, à Québec ou à Montréal, et le conducteur de voiture publique sera toujours le même, un type unique. Il est à la fois l'être le plus remuant et le plus pacifique de la terre. Sa gaieté est inaltérable, sa docilité à l'épreuve, sa discrétion proverbiale. Causeur par tempérament, il sait se rendre muet comme Harpocrate. Aussi curieux qu'une femme, il compte la prudence parmi ses premières qualités. Observateur pénétrant, sa finesse ne trahit jamais le résultat de ses investigations. Vif jusqu'à l'excès, il est d'une patience angélique s'il le faut. Têtu comme une mule de la Sierra Morena, on ne l'a point encore vu résister aux flatteries d'un louis. Ennemi juré de la police, il est à tu et à toi avec ses agents. Enfin, soit qu'il reste stationnaire, soit qu'il marche, soit qu'il trotte, soit qu'il galope, soit qu'il vole, le conducteur de voiture publique est le factotum de la société. Que de services n'a-t-il pas rendu? Que de services ne rend-il pas et ne rendra-t-il pas? On devrait lui voter des médailles, lui attacher des décorations sur la poitrine, lui ériger des statues. Mais l'humanité est ainsi faite. Elle méprise ceux qui lui sont utiles, pour encenser ceux qui lui sont nuisibles. Cependant, perché sur son strapontin,
comme un cormoran au sommet d'un rocher, le conducteur de voiture publique regarde onduler la foule à ses pieds et rit sous cape en sifflant un air de sa composition. Car il est poète, il est artiste, notre homme. Voyez-le plutôt. Qui mieux que lui connaît les monuments d'une ville, leur histoire, leur chronique, leur légende? Qui mieux que lui sait la chansonnette en vogue, la toilette à la mode, le livre qui fait fureur? Qui mieux que lui pourrait tirer les effets des causes, les causes des effets? Qu'il daigne ouvrir la bouche et il vous dira où va cette élégante, hermétiquement voilée. D'où revient ce monsieur, enveloppé jusqu'aux yeux dans son cache-nez? Il a pressé les doigts délicats des plus grandes duchesses, causé avec les sommités de la littérature, de la peinture, de la sculpture, de la science, de la diplomatie. Ses connaissances sont universelles, sa mémoire vaut une encyclopédie, son tact est infini. Astronome par nécessité, il vous prédira le beau ou le mauvais temps, comme la fleur des almanachs. Mais, malgré tous ses talents, le conducteur de voiture publique appartient à la classe des incompris. Ô honte de notre siècle! Cependant, s'il lui prenait fantaisie de parler à cet homme, que de faiblesses n'aurait-il pas à révéler sur votre compte, fières dames et orgueilleux gentilshommes qui passaient, le dédain aux lèvres, devant son modeste sapin? Grâces au ciel, il est bon, il est charitable, il est miséricordieux, le conducteur de voiture publique. Il a tout vu, il a tout appris, et comme le dit Dumas, il est l'homme des sociétés vieillies. La civilisation est venue à lui, il s'est laissé faire. Sa moralité est à peu près celle de Bartolo. Passant du composé au simple, de l'entier à la fraction, nous allons, si le lecteur y consent, nous transporter sur la place Notre-Dame, à Montréal, et esquisser en deux traits de plume le conducteur de voiture publique canadien. Partout ailleurs qu'au Canada, le conducteur de voiture publique, tout en conservant son cachet primordial, a su marcher avec le progrès. Mais ici, il n'a pas bougé d'une seule ligne. Tandis qu'en Angleterre, en France, etc., il s'aristocratisait, sur les bords du Saint-Laurent, il demeurait fidèle aux traditions de nos aïeux. Aussi se moque-t-il de ses prétentieux confrères d'outre-Atlantique, qui se font appeler « cochers », et n'ambitionne-t-il que l'antique appellation de « charretier ». Ce nom vénérable, il l'aime, il le chérit, il le respecte comme titre de noblesse. Malheur à qui le lui contesterait. Si maintenant nous délaissons encore une fois le champ banal des généralités pour celui des particularités, si nous exilons l'entier pour patronner l'unité, nous vous apprendrons que Pierre Morlaix était charretier de profession, qu'il stationnait d'ordinaire sur la place Notre-Dame, devant l'église, qu'il marquait 26 ans, n'était pas beau garçon, mais possédait en revanche les plus belles bêtes de toute la paroisse de Montréal. C'étaient deux chevaux baie brun, à la robe soyeuse et luisante, aux longues balsanes blanches, portant haut la tête, trottant vite et menu, pas malins en toutes, comme disait leur maître, et faisant 50 000 sans se fatiguer. Je vous laisse à penser si Pierre Morlaix était vain de son attelage. Vraiment, il fallait le voir assis sur le siège de sa calèche, doublé d'étoffes gaufrées, il fallait le voir brûlant le pavé de la grande rue Saint-Jacques, par un beau jour d'été, il fallait voir avec quelle célérité il vous emportait les parties, le dimanche, à Monkland. Et l'hiver, donc. Ah ! L'hiver était le bon temps de notre ami. Dès que la neige étendait sa nappe de duvet sur la ville et les campagnes, Pierre remisait sa calèche, l'emmaillotait tendrement dans une housse de cuir imperméable et sortait son sleigh. Un superbe traîneau, ma foi, en velours cramoisi et tout drapé de splendides pelleteries qui retombaient jusqu'à terre. Il en avait fait des jaloux, ce sleigh-là. Les charretiers de la place Notre-Dame, de la place Jacques-Cartier, du marché à Foin, se mangeaient-ils la langue chaque fois qu'ils apercevaient sa coque élégante, rasant avec la rapidité d'une locomotive le sol argenté de concrétions cristallines. Dans leur envieuse fureur, quelques-uns n'avaient-ils pas comploté la perte du joli traîneau? Oui, mais Pierre Morlaix était un rude gars. Il avait découvert la conjuration, fustigé d'importance les conspirateurs, et son traîneau jouissait de l'estime publique. À peine arrivé à son poste le matin, il était retenu. Nul n'avait souvenance qu'il fût resté 10 minutes inoccupé. Le samedi soir, on l'assurait pour le lendemain, on se le disputait, et Maître Pierre, afin de contenter tout le monde, le mettait généreusement à l'enchère. Alors le traîneau montait, montait, montait. Les têtes s'échauffaient et souvent la location était adjugée sur une offre de $15. Pierre faisait claquer sa langue contre son palais. Le gagnant jetait sur ses antagonistes un coup d'œil de défi et la foule, que ces scènes hebdomadaires ne manquaient jamais d'amasser, battait des mains. Tel était Pierre Morlaix, ses deux coursiers, Carillon, la Brune et son sleigh, lorsque, par une nuit de janvier 1800, comme le brave Phaéton revenait d'une course dans Griffinton, il fut frappé par cette interpellation significative.
« Ohé !»
Pierre ralentit l'allure de ses chevaux, se retourna, et à la lueur du réverbère voisin, aperçut un individu, embossé dans un ample manteau, à collet relevé, et coiffé d'un casque, note, tel est le nom que les Canadiens français donnent à leur coiffure d'hiver, fin de la note, en fourrure. « Approche !» fit ce personnage d'un ton bref. Le charretier avança sa voiture près du trottoir et dit « Embarquez !» L'inconnu sauta dans le traîneau, ramena soigneusement sur lui la robe de bœuf, bordée d'une bande écarlate. « Où va-t-on, monsieur ?» demanda Pierre.
« Faubourg Québec, et promptement !»
Ces mots étaient à peine prononcés que Carillon et la Brune dévoraient l'espace avec la vitesse du vent. Le froid était sec. La neige grinçait sous les patins du sleigh, et des narines des chevaux s'élevait un nuage de vapeur blanchâtre qui tranchait sur les teintes bleues, projetées par le firmament, nacrées de perles étincelantes. « Quelle rue ?» dit Pierre en franchissant la place d'Alousie.
« Rue de la Visitation. »«
Quel numéro ?»«
Marche. Je t'avertirai quand je voudrai descendre. »
Habitué aux caprices de ses pratiques, le charretier poursuivit droit son chemin jusqu'à la rue de la Visitation, qu'il enfila trop brusquement, car le traîneau s'accrocha à une borne et se renversa sur le côté. Heureusement, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes, mais Pierre fut lancé au milieu de la voie, ainsi que son voyageur.
« Maladroit !» s'écria celui-ci, en se relevant. « Ne pouvais-tu faire attention ?»«
Excusez !» balbutia le conducteur confus, et s'assurant qu'il n'était pas blessé.
« Allons, leste !»
dit l'autre, en ramassant sur la neige un objet qu'il avait sans doute laissé échapper et que Pierre Morlaix crut être un pistolet. Ils reprirent leur place et se remirent en route. Mais au coin de la rue Sainte-Catherine, l'inconnu posa sa main sur l'épaule de Pierre Morlaix.
« Voici un louis. Attends-moi ici, tu me ramèneras. »
Ce disant, il sautait à terre et disparaissait derrière un pâté de maison. Séduit par la générosité de son passager, afin de nous servir du terme local, Pierre l'attendit patiemment jusqu'au petit jour. À la fin, lassé de fumer des pipes, de s'agiter le corps, les pieds et les bras pour s'échauffer, il résolut de rentrer ses chevaux à leur écurie. Ensuite, avant de se coucher, il voulut nettoyer son traîneau. Mais quelle fut sa surprise de trouver sur le coussin un petit portefeuille de maroquin noir. Pierre l'ouvrit sans scrupule, en marmottant. « C'est ce monsieur qui, sans doute, l'aura oublié. Il ne manquera pas de le réclamer, et on le lui rendra. » Le portefeuille contenait 20 bills de 50 piastres chacun, et un billet, sans adresse et sans signature, ainsi conçu. Il ne tient qu'à vous de vous en assurer, si vous le désirez. Il est chez elle.
« Ça ne m'apprend pas grand-chose, » dit le charretier en serrant le portefeuille dans la poche de son capot.
Fin du chapitre 1 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague, en septembre 2010.
Chapitre 2 de la première partie, Le Charretier, de La Fille du Pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. À l'époque où commence cette histoire, Montréal était loin d'occuper l'étendue qu'il embrasse maintenant. Le faubourg Québec, si peuplé aujourd'hui, ne comptait guère que quelques maisonnettes éparpillées à travers de vastes prairies marécageuses et sillonnées de ruisseaux.
sur l'emplacement du pâté actuellement borné par les rues Sainte-Catherine et Dorchester, Baudry et de la Visitation, s'élevait une cahute en bois, appuyée contre quelques hangars et chantiers de la plus chétive apparence. Cette cahute n'avait qu'un étage. Autour régnait une galerie délabrée, à laquelle on arrivait par un escalier de 4 marches. Le toit, couvert en bardeaux, se projetait en forme d'auvent au-dessus de la galerie et l'abritait tant bien que mal. Il était surmonté d'une lucarne demoiselle, alors à demi enterrée sous la neige. La façade de la masure donnait au sud. Elle possédait 2 fenêtres et une porte basse, ouverte à l'extrémité gauche, vis-à-vis de l'escalier. Devant cette maison s'étendait la cour, ceinte d'une palissade en souches d'érable, grossièrement empilées les unes sur les autres. Des tas de fumier, revêtus d'une épaisse couche de glace, et un poulailler, composaient les principaux ornements de la cour, où l'on pénétrait par une frêle barrière, retenue avec des liens d'osier, en guise de gonds, et fermant au moyen d'une corde qu'on nouait à une cheville, fichée dans un montant disposé à cet effet. La maison appartenait à une vieille femme. Habitation et habitante jouissaient d'une mauvaise réputation. Dans le voisinage, on n'en parlait qu'avec terreur. Ceux que leurs affaires obligeaient à passer près de la résidence de la mère Guilloux ne manquaient jamais de se signer, et le nom seul de la Maritorne suffisait pour imposer silence aux enfants criards. La mère Guilloux n'avait plus d'âge. On la disait veuve d'un matelot que nul n'avait connu. Quant à elle, c'était une grande femme, sèche, osseuse, d'un aspect repoussant. Son visage ressemblait assez à une peau de parchemin desséchée, plissée, recroquevillée par la chaleur. Pommettes, maxillaires, saillissaient affreusement. Le front était étroit aux tempes, bas, déprimé, en grande partie caché par des mèches de cheveux blancs sales qui s'échappaient d'un bonnet d'indienne dont la couleur primitive avait disparu depuis longtemps sous un triple enduit de graisse. De petits yeux ronds forés en trous de vrille, un nez écrasé, aplati comme par un coup de marteau, une bouche énorme, dépouillée de sa lèvre supérieure et laissant à nu quelques crocs jaunâtres, un menton couturé par une cicatrice cruciale, au bord de laquelle avaient cru des touffes de poils gris, achevait de justifier l'effroi superstitieux que cette hideuse créature répandait autour de sa personne et de sa propriété. D'où venait la mère Guilloux? Problème. 10 ans auparavant, elle s'était installée dans la baraque que nous avons décrite, après l'avoir achetée à un pêcheur, et depuis lors, elle y vivait. Quels étaient ses moyens d'existence? Autre problème aussi insoluble que le premier. Les commères du quartier prétendaient bien que la mère Guilloux entretenait doux commerces d'amitié avec le diable et qu'elle devait à l'esprit malin les beaux louis d'or que chaque semaine elle échangeait au marché contre les primeurs de la saison. Mais le diable est ordinairement un pauvre air, plus chargé de conscience que de piastres, et nous doutons que malgré sa prétendue tendresse pour l'âme de la mère Guilloux, il eût été capable de se constituer le banquier pourvoyeur de son estomac. Comment la mère Guilloux employait-elle ses journées? 3e mystère qu'aucun Œdipe n'avait pu percer. Ce n'est pas qu'on eût tenté d'en déchirer le voile. Dieu merci, à Montréal, aussi bien que partout ailleurs, il ne manque pas de gens plus enclins à soigner les intérêts des voisins que les leurs. La charité est si excellente vertu. Mais, en cette occasion, Madame Charité s'était bourgeoisement cassé le nez. La mère Guilloux, ou la Camarde, comme on l'appelait communément, témoignait peu de goût pour la société. Et les intrépides bienfaitrices qui avaient essayé de porter leur curiosité dans son asile avaient été dûment éconduites par le cerbère du logis, un certain chien-loup malingre, décharné comme sa maîtresse, mais possesseur, au reste, de splendides mâchoires qui auraient émerveillé nos dentistes aux Anores. Ce chien-loup se nommait Hurleur. En été, M. Hurleur gîtait sous la galerie. En hiver, il se promenait flegmatiquement au-dessus. Jamais il ne désertait son poste. Quelqu'un approchait-il trop près de la clôture? Le fidèle portier s'élançait dans la cour, se dressait sur ses pattes de devant contre la barre transversale de la barrière et montrait coquettement à l'audacieux ses dents blanches et aiguës. C'était vraiment un chien modèle. Les Français lui auraient, sans nul doute, décerné le prix Montyon. Moins appréciateurs des nobles qualités que les Français, les Canadiens ne tenaient pas notre animal en haute estime. Au contraire, ils lui avaient voué toutes les malédictions imaginables. Un garnement, de la pire espèce, nous aimons à le croire, ne s'était-il pas avisé de vouloir jouer un mauvais tour à ce prototype de la race canine? Mais aussi il avait payé cher sa méchanceté. Si cher que, sans l'intervention de la Camarde, Sire Hurleur eut bel et bien dévoré le jeune fou, qui en fut quitte pour une épaule triturée et une demi-douzaine de côtes écorchées. Je vous laisse à penser si cet accident avait causé sensation. On parla de brûler la mère Guillou, Saturne et son abominable gardien. Mais lorsqu'il fallut mettre le projet à exécution, ce fut, comme au conseil, tenu par les rats. L'un dit « Je n'y vais point, je ne suis pas si sot ». L'autre « Je ne saurais ». Si bien que, sans rien faire, on se quitta. En fin de compte, il fut décidé que le cas serait soumis au constable. Inutile de reproduire les fioritures dont on enjoliva ce grief capital. Titillé par le poivre long de l'anxiété, les langues manœuvrèrent avec une facilité miraculeuse, et Belzébuth sait de combien d'infamies dites et inédites on chargea la veuve du matelot. Le magistrat écouta gravement les rapports des plaignants et promit qu'il opérerait le jour même une visite domiciliaire dans ce repaire de monstruosité. Effectivement, une heure après, il arrivait, accompagné de deux agents subalternes, devant la maison suspecte. Des groupes nombreux s'étaient formés à quelque distance, afin de juger si Satan aurait plus d'égards pour un officier public que pour de simples particuliers. Déjà Hurleur poussait un grognement de sinistre augure lorsque la Camarde parut sur la galerie. À la vue de la police, elle grimaça un sourire qui rehaussa encore la laideur de sa face. Ensuite, rappelant à l'ordre son chien Griffon, elle s'avança à la rencontre du commissaire. « Madame, » commença celui-ci. La mégère l'interrompit en lui présentant un papier qu'elle avait à la main. D'un clin d'œil, le bailli l'eut parcouru, et on remarqua, chose étrange, qu'il s'inclina aussitôt humblement devant la Camarde et enjoignit à ses recors de se retirer. Lui-même ne tarda pas à les rejoindre, en sortant de la cour à reculons. Ici, permettez-moi de placer une ligne de points d'exclamation pour vous peindre l'ébahissement des spectateurs de cette scène. Note de la lectrice. Ici, suit une ligne de points d'exclamation. Fin de la note de la lectrice. « Bon, criez-vous, c'était une princesse déguisée. Les salamalecs d'un honorable fonctionnaire de la cité démontrèrent victorieusement que toutes les imputations sur son compte étaient fausses et que ses infirmités méritaient le respect, non les railleries. Ah, que vous appréciez mal nos aimables euménides du faubourg Québec. Quoi ? Vous avez la candeur de supposer qu'elles avaient entassé des montagnes d'hypothèses, sondé toutes les profondeurs de l'enfer, bâti des forteresses de soupçons, interroger tous les échos du « on dit », échafauder pièce à pièce le plus formidable édifice d'interprétation connu de mémoire de femme, pour voir tout cela se dissoudre, s'évanouir, s'annihiler comme une vaine fumée, parce qu'il avait plu à un policeman anglais de courber le dos devant une gueuse. Non, non, fille de Bretons et de Normands ne broute guère au râtelier de la crédulité. Ce n'est pas elle qu'on mystifie aisément. Notre-Dame de Bon Secours, pour changer leurs convictions, besoin est d'arguments solides, substantiels, palpables. Essayez de les prendre avec le miel de la politesse ou le vinaigre de la colère. Donc, après l'entrevue de la Camarde avec les agents de la police, Madame Raviot dit à Madame Bouvet
« Sainte Vierge, qui aurait cru ça? Notre bailli qui est ensorcelé et tout.
En effet,
Pour le sûr, la vieille chibille y est jetée un sort. Oh, ben, je sens fièrement préservée à cette heure dans Montréal,
ajouta une jeune fille, en rajustant sa câline que le vent avait dérangée.
Je gage qu'il est protestant, ce particulier-là. Tout de même que ça se pourrait. Des horreurs. Ils iront traite dans la chaudière bouillante.
Ainsi de suite. Voilà où en étaient la Camarde et sa demeure, quand l'inconnu que Pierre Morlaix débarqua à l'angle des rues de la Visitation et d'Orchester s'approcha de la maison maudite. Fin du chapitre 2 de la première partie. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 3 de la première partie, Le Chartier, de La Fille du Pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Notre personnage marcha droit à la barrière, détacha la ficelle qui la fermait, en homme accoutumé aux êtres, franchit la cour, donna une caresse au chien Griffon, qui, dérogeant à ses habitudes hostiles, était accouru gambader autour de lui, monta l'escalier et frappa à la porte quatre fois successives et une cinquième après une demi-minute d'intervalle. Des pas ne tardèrent pas à se faire entendre de l'intérieur, puis un triple grincement de verrou, puis la Camarde parut, tenant à la main une chandelle de suif baveuse.
« Ah, c'est vous !» dit-elle d'une voix rauque. « Il est bien tard. Nous désespérions. »
« Mike est-il ici ?»«
Oui, monsieur. Il est dans le cabinet du fond. »
« Éclairez-moi, Juliette. » Il se trouvait alors dans une vaste cuisine sombre, malpropre, lambrissée de toiles d'araignée et de batteries de cuisine ébréchées ou rouillées. Un grand poêle en fonte occupait le centre de la pièce, dont le plafond était formé de solives grimaçantes et soutenues, çà et là, par des étais à peine équarris. Pour le plancher, il gémissait sous une couverture d'immondices visqueuses et glissantes. En un coin, des figurines de cire, s'efforçant de représenter le tableau de Jésus à la crèche, jaunissaient dans leur châsse de verre fêlé. L'atmosphère de cette cuisine était lourde, écœurante. On y respirait une odeur de boucan et de graillon que justifiaient des chapelets de poissons salés pendus à des crochets et un chaudron dans lequel roussissaient, en grésillant à l'ardeur du feu, de menus morceaux de lard. La vieille prit un trousseau de clefs et se dirigea vers une porte latérale. « Où allez-vous ? » demanda l'inconnu.
« Chut ! » fit la Camarde en ouvrant la porte avec précaution.
« Est-ce que ce serait déjà fini ?»«
Venez, monsieur Larençon. »
Ils entrèrent dans une chambre dont l'aspect contrastait étrangement avec celui de la première pièce. C'était passé d'un ignoble taudis dans un riant boudoir. À la vérité, le mot boudoir est peut-être hasardé, mais en sortant de la cuisine, où tout exaspérait les sens, il était impossible de ne pas être délicieusement impressionné par l'apparence coquette de cette chambre, tendue d'un joli papier rose satiné, à nid d'amour, et de laquelle s'échappait une douce senteur d'iris. L'appartement était petit, petit, mais gentil à plaisir. D'abord, un beau tapis bien chaud, bien moelleux pour reposer les pieds, un plafond bien blanc, bordé de moulures, avec une belle rosace, d'où descendait, par des cordons de soie, une lampe astrale qui projetait des ondes de lumière vaporeuse. Ensuite, c'était une table en acajou, une berceuse, une causeuse en velours orange, une fenêtre garnie de rideaux de brocart drapés en haut sous leurs baguettes de cuivre doré et retenues par des embrasses de même métal, enfin un lit perdu sous les plis de ses amples courtines en soie blanche, semées de bouquets de fleurs. Si la variété des couleurs de cet ameublement n'accusait pas un goût raffiné, leur opposition flattait l'œil et amenait sur les lèvres un sourire de bonne humeur.
« Voyez, » dit à voix basse la mère Guillou, en désignant le lit, « elle est là !»
Un éclair de joie illumina la prunelle noire de l'étranger.
« Quoi ? » dit-il,
« Mike a réussi ?»« Admirablement, mais le drôle en l'apportant m'a semblé ivre. Il voulait la garder avec lui dans le cabinet. J'ai craint, vous comprenez ?»«
Oui, répondit Larençon avec un geste de dégoût. Le misérable en aurait bien été capable. Alors je lui ai dit que, selon vos ordres, elle devait être déposée dans cette chambre jusqu'à votre arrivée. Vous avez bien fait, Juliette. Mais fermez donc la croisée, elle doit être ouverte. Je sens un courant d'air.
Un courant d'air? C'est ma foi vrai. Il doit provenir de la cuisine, car je me suis assurée que le châssis était fermé quand nous eûmes couché la petite. Elle dormait que c'était bonheur à la contempler. Vous voulez la voir?
Sans doute. La Camarde s'avança vers le lit sur la pointe du pied et écarta les rideaux. Mais aussitôt, elle lâcha une exclamation de surprise fort naturelle.
« Qu'est-ce ? »
s'écria Larençon en regardant par-dessus l'épaule de la vieille.
« Envolée ! »
« Hein ?
Elle n'y est plus ! Elle est partie ! » !»«
Que dis-tu, malheureuse ? » fit l'étrange visiteur en la repoussant brutalement.
« Oh, grâce, grâce, monsieur Larençon ! »
balbutia-t'elle d'une voix suppliante.
« Je vous jure ! » !»«
Arrière ! » À cet instant, un nouvel individu se présenta sur le seuil de l'appartement. Il était affublé de haillons adipeux. Un chapeau râpé, sans forme, une sorte de houppelande, percé au coude, déchiqueté à l'extrémité des manches, sevré de boutons, serré à la taille par des lambeaux d'écharpe en laine, un pantalon de droguet troué aux genoux et des mocassins déchirés. Si l'enveloppe de ce personnage était peu attrayante, sa physionomie l'était encore moins. Il n'était guère possible d'imaginer visage plus hideusement laid. On eût dit le miroir de toutes les passions honteuses, une création de William Hogarth.
« Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il en chancelant.
« Ah, c'est vous, bourgeois, bon. Vous êtes content. Mais comme ils ont l'air chiffonnés, qu'est-ce qu'elle a la Camarde ? Oh, ne la battez pas. Pif, paf, pan, bateau, comme c'est touché. Attrape, mes amours. « Bateau !
Est-ce que le bourgeois prétendrait... »«
Off, il va la tuer, le diable m'emporte. Heureusement qu'il a des gants, le bourgeois. Sans cela, il s'écorcherait les doigts sur cette vieille carcasse déplumée. Tonnerre ! Voilà un coup de poing qui vaut 36 chandelles. Et ce coup de pied ? Il faut tout de même qu'elle soit fièrement dure, la Camarde. Bateau ! Il en pleut aujourd'hui des indulgences. Mais ils vont réveiller. Oh, oh ! Je m'oppose, je m'oppose, je m'oppose, potence !
Là-dessus, notre homme s'élance sur Larençon, qui, emporté par une colère indicible, frappait furieusement la mère Guillou et lui dit
« Oui, monsieur !»
L'autre se retourna, l'œil étincelant, les traits contractés par l'irritation.
« C'est toi, Mike. Est-il vrai que tu l'avais enlevé ? » ?»« Comment si c'est vrai, bourgeois ? Cette satanée sorcière prétendrait-elle le contraire ? » ?»«
Tiens !» dit Larençon en le conduisant vers la fenêtre, qui effectivement était ouverte.
« Eh bien ?»
répliqua Mike, cherchant à comprendre, tandis que la Camarde profitait de cette circonstance pour s'enfuir.
« Eh bien, l'affaire est manquée. »« Bateau ! Que le diable m'emporte si je sais !»
Notre proie s'est échappée.
« Quelle proie ?
Qu'as-tu fait ce soir ? Tâche de me répondre correctement, quoique tu sois ivre comme un Polonais. »
« ce que j'ai fait, bateau, ce que j'ai fait... Oh, j'ai gagné notre procès, bourgeois !»«
Oui, mais où est l'enfant ?» Mike courut au lit.
« Oh »
dit-il d'un ton menaçant, après y avoir jeté un coup d'œil, « la Camarde a voulu manger à ma botte de foin. Un moment, un moment !» Il sortit, et bientôt l'on perçut le bruit d'une violente dispute, ensuite un grand cri. Larençon, étonné, se disposait à rejoindre l'Irlandais lorsque celui-ci rentra. Il tenait à la main un long couteau dégouttant de sang.
« C'est réparé, » dit-il froidement, en essuyant la lame de l'arme sur la manche de son habit. « Mais l'enfant ?»
Mike parla durant plusieurs minutes à l'oreille de Larençon, et à la fin ce dernier, dont le visage avait donné des signes de satisfaction visibles, s'écria «
Parfait !» Tu as eu raison. Aussi bien, il était temps d'en finir avec elle.
Mais le chien ?
Le chien, bateau, c'est juste le chien. Oh, j'ai mon idée, ne vous inquiétez pas.
L'Irlandais sortit de nouveau, et Larençon se jeta sur la causeuse, où il demeura près d'une heure plongé dans un abîme de réflexion. Au retour de l'autre, il se leva.
« Partez le premier, »
dit Mike, en lui remettant entre les bras
un enfant endormi. Le mystérieux personnage examina une seconde la figure de l'enfant, l'enveloppa soigneusement dans son manteau, sauta par la fenêtre et disparut. Mike alors défit le lit, renversa les matelas au milieu de la chambre, éparpilla les feuilles de maïs qui remplissaient la paillasse, saisit la lampe, mit le feu à trois ou quatre places différentes, sauta par la fenêtre et disparut à son tour. L'aurore commençait à poindre. Fin du chapitre 3 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 1 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1.
Numéro 1, 11h, rien ne bouge.
Numéro 2, 11h, rien ne bouge,
reprit le deuxième factionnaire. Ce cri, passé de bouche en bouche et répété par toutes les sentinelles, fit le tour de la prison de Montréal. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 2 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. La prison de Montréal était un bâtiment situé sur la rue Notre-Dame, presque vis-à-vis de la place Jacques-Cartier et adossé au Champ de Mars. Des murs élevés l'entouraient. De cette prison, aujourd'hui, il ne reste que le pignon nord-est. La partie méridionale a été démolie pour faire place aux constructions du nouveau palais de justice, et il est bien à souhaiter que l'on se hâte de démolir ce pignon, espèce de bicoque qui jure affreusement à côté du plus beau monument public de la métropole canadienne. À l'époque dont nous parlons, la prison de Montréal formait un parallélogramme long, composé de deux étages et d'un rez-de-chaussée. Les deux étages étaient occupés par les simples délinquants. Mais le rez-de-chaussée était affecté aux grands criminels. Ceux-ci étaient généralement parqués, deux à deux, dans des cachots vastes et assez bien aérés. Fin du chapitre 2 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 3 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Si le lecteur consent à pénétrer avec nous dans l'un de ces cachots, au moment où les sentinelles s'envoient le mot d'ordre, il y trouvera deux prisonniers avec qui nous aurons occasion de faire ample connaissance. Malgré leur avancée de la nuit, les captifs ne dorment pas. Bien au contraire, ils sont aux aguets, ils écoutent. Bon. Le factionnaire est rentré dans sa guérite. Donnez-moi la lime, Mike. Et l'individu apostrophé passe à son camarade une petite lime finement trempée. Puis l'on perçoit un léger son, âcre, régulier, monotone, mais qui se confond avec les plaintes des girouettes tournoyant sur leur hampe oxydée. C'est le frottement du métal contre le métal. C'est le grincement de l'acier mordant le fer. Les prisonniers travaillent à leur évasion. Une obscurité complète enveloppe la cellule. Au dehors, il pleut à verse.
« Est-ce fait, monsieur Alphonse ?»«
Pas encore. Écoutez, on dirait que quelqu'un vient. »«
Non, » dit Mike après une minute de pause. « Vous pouvez continuer. »«
Fini !» s'écria bientôt Alphonse. « Le barreau est scié, il ne nous reste plus qu'à l'arracher. » Prenons-le par le bras et tirons à nous. Chut, il me semble.
En effet, des pas sonores et cadencés résonnaient à quelque distance.
La ronde, murmura Mike.
Tant mieux, il y aura maintenant moins de danger à craindre.
Les pas se rapprochèrent et s'éloignèrent lentement.
À l'œuvre maintenant, dit Alphonse.
Les prisonniers empoignèrent le barreau à pleine main. Et animé de cette énergie fébrile qui décuple les forces dans les positions périlleuses, le décélèrent en deux ou trois secousses.
Ah, nous sommes libres !» dit Mike en bondissant de joie.
« Silence ! Le plus difficile n'est pas fait. Avez-vous des cordes ?»«
Voici. » »«
Sortons. »
À cet instant, la sentinelle voisine criait
« Numéro 11, 11h30, rien ne bouge. »
Fin du chapitre 3 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 4 de la deuxième partie, L'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La fenêtre du cachot était de niveau avec le sol de la cour et défendue seulement par une croisée cadenassée, un treillis en fil d'archal et 6 barreaux de fer. Forcer le cadenas, briser le grillage, n'avait été qu'un jeu pour les prisonniers. On a vu de quelle manière ils s'étaient débarrassés du plus formidable obstacle. Le premier, Mike, se glissa à travers l'étroite ouverture et mit le pied sur le préau. Alphonse le suivit de près. Sans prononcer une parole, l'un et l'autre se dirigèrent vers le mur d'enceinte. Là, ils firent halte et s'assurèrent qu'ils n'avaient pas été remarqués. Le ciel était noir comme l'ébène, et l'espace voilé par les torrents d'une pluie diluvienne. On ne voyait pas à deux pas de soi.
« Allons, » dit Alphonse, d'une voix à peine intelligible. « Lancez la corde, et ne manquez pas le coup. Il y va de notre salut. »
D'un coup d'œil, Mike mesura la hauteur de la muraille, dont le faîte paraissait faiblement à travers l'opacité des ténèbres, et déroulant une longue corde à nœuds, terminée par un crochet de fer, il saisit ce crochet à l'extrémité et le lança en l'air. Il avait mathématiquement calculé la puissance de sa projection, car le crochet rasa le chaperon du mur et alla se balancer par derrière. Alors, Mike retira doucement sa corde jusqu'à ce qu'il éprouvât de la résistance. L'instrument était ancré au rebord du mur.
« À vous !» dit Mike.
Alphonse, s'étant cramponné à la corde, commença de grimper. Son compagnon l'imita sur-le-champ. Ils parvinrent heureusement au terme de leur ascension. Déjà, ils s'apprêtaient à descendre lorsqu'un cliquetis d'armes retentit. Mus par un même instinct, les deux fugitifs se couchèrent à plat ventre.
« Numéro 1, minuit, tout !»
Fin du chapitre 4 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en octobre 2010. Chapitre 5 de la deuxième partie, L'évasion, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Une détonation troubla le silence de la nuit. La sentinelle avait distingué des ombres qui se mouvaient sur le couronnement du mur. Mike poussa une exclamation de douleur et se laissa choir dans l'intérieur de la prison. Se sachant découvert, Alphonse sauta vivement de l'autre côté. Mais l'alarme était donnée. Les factionnaires extérieurs se tenaient sur le qui-vive, tandis que le poste alors établi devant la place Jacques-Cartier se mettait en mouvement. Alphonse était maladroitement tombé et, dans sa chute, s'était blessé à la tête. Par bonheur, toutefois, il ne défaillit point. Se relevant donc avec une agilité incroyable, il traversa le Champ de Mars et gagna la rue Saint-Louis, qu'il longea à toutes jambes. Mais un soldat l'avait aperçu et s'était mis à sa poursuite, ainsi que plusieurs de ses camarades. Le malheureux évadé, comprenant qu'il ne leur échapperait qu'en leur faisant perdre sa trace à travers le dédale de ruelles qui s'enchevêtrent dans le faubourg Québec, enfila d'abord la rue Pertuis, tourna à gauche et enfin se jeta dans la rue du Loup. Son sang coulait avec abondance, ses forces diminuaient insensiblement. Alphonse se convainquit qu'il ne pourrait aller plus loin. Ses oreilles bourdonnaient, il lui semblait ouïr crier de toutes parts « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Éperdu, égaré, fiévreux, le fuyard se précipita dans une allée sombre, ouvrit une porte
et s'évanouit presque sur le seuil de l'appartement où il était entré. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en octobre 2010. Chapitre 6 de la deuxième partie, L'évasion de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Les mœurs canadiennes ont conservé toute la naïve simplicité des anciennes mœurs françaises. Rien n'a été altéré ou oblitéré. L'Européen qui arrive au Canada se croit transporté parmi les Français d'avant la Révolution de 89. Institutions, coutumes, préjugés sont ici en vigueur comme ils l'étaient sous le règne de Louis XVI. Seule la langue a été adultérée. Il s'y est glissé quelques anglicismes. Mais encore ces adultérations ne sont-elles sensibles que dans les villes. Les campagnes n'ont pas eu à les subir. Les habitants parlent le patois des paysans normands et bien peu entendent l'anglais. Cependant, les mœurs canadiennes l'emportent sur les vieilles mœurs françaises parce qu'elles sont généralisées et non localisées dans telle ou telle classe de la société. En d'autres termes, la même dénomination souvent est affectée aux usages de ce pays. Pour n'en montrer qu'un exemple, nous parlerons de la veillée. Jadis, la veillée était fort à la mode parmi les Français. À cette heure, elle n'est plus guère connue que dans les petits villages éloignés des grandes routes. Dans les villes, on ne connaît que la soirée ou le bal. C'est là ce qui a remplacé la douce veillée, candide, bergère, sans apprêt, sans luxe, sans prétention, la veillée où l'on contait des histoires bien lugubres, où l'on caquetait, où l'on titillait, où l'on filait, où l'on dansait gaiement, et où l'on s'aimait plus avec le cœur qu'avec les lèvres. Le Canada a échappé aux soirées. Vraiment, nous l'en félicitons, et nous souhaitons que toujours il ignore les ridicules et les inconvénients de la soirée. Citadins et villageois, ministres et négociants, Crésus et prolétaires, tout le monde donne des veillées sur les bords du Saint-Laurent. Et c'est plaisir que d'assister à ces charmantes réunions, desquelles ont été bannies l'étiquette, la morgue, le froid décorum et toutes les sottises empesées qui glacent les relations des peuples ultra-civilisés. Lecteur, ce que nous venons d'écrire n'est pas brillant, tant s'en faut. C'est que nous avons pour les réflexions la même horreur que vous, et que notre plume a profité d'une distraction de notre cerveau pour faire des siennes. Pardonnez-lui cette incartade, qui, hélas, ne sera probablement pas la dernière. Fin du chapitre 6 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 7 de la deuxième partie, L'évasion de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Or, il y avait veillé, ce soir-là, chez Pierre Morlaix, demeurant au coin de la rue des Voltigeurs. Pierre Morlaix était le plus riche charretier de Montréal. Il possédait alors 2 calèches, 3 traîneaux et 4 carrioles. En outre, une douzaine de chevaux de trait, plusieurs lots de terrain et la maison qu'il habitait, rue des Voltigeurs. Jolie maison, ma foi, coquette, pimpante, en briques rouges, striées de filets blancs, au contrevent vert et au toit de zinc, un véritable nid d'amour. Les veilleurs étaient réunis dans la salle. Cette pièce était à peu près la même dans toutes les maisons des ouvriers canadiens à leur aise. Si elle ne se recommande point par le luxe du décor et de l'ameublement, elle est unique pour la propreté. Pas de tentures aux murailles, mais une sorte de grisaille tirant sur le bleu foncé. Pas de tapis pour appuyer le pied, mais un parquet de sapin lavé chaque matin et d'une blancheur immaculée. Pas de plafond lambrissé ou moulé, mais de petites solives bien équarries et supportant le plancher supérieur. Pour des meubles, la salle n'en a guère. à l'exception d'une huche, d'un buffet, d'une table pliante et de quelques chaises d'écorce, je ne sais pas trop ce qui pourrait trouver un encanteur. Note, profession correspondante à celle de commissaire-priseur. Fin de la note. Toutefois, n'omettons pas certains traits caractéristiques. La salle a une cheminée dont la tablette est généralement chargée de pieuses figurines, en cire ou en plâtre, et le manteau orné d'une splendide enluminure représentant la victoire de Saint-Michel sur le diable, ou la décollation de Saint-Jean-Baptiste, ou le jugement dernier. Souvent aussi, dans des cadres de bois noirci, pendus çà et là, vous remarquez les quatre saisons, ou un élégant, frisé, pincé, musqué et paraffant Victor, ou une élégante, haute en couleur, étranglée à la taille comme une guêpe, et signant Louise. Enfin, au-dessus du buffet, votre œil rencontre invariablement, placés à chaque extrémité, des courges, des citrouilles ou des coloquintes, bref, quelques membres de la famille des cucurbitacées, et, au centre, un pot de fleurs artificielles et plus fréquemment une corbeille de fruits en plâtre, coloriés avec un luxe inouï. Voilà la salle canadienne. Qu'en pensez-vous? Fin du chapitre 7 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 8 de la deuxième partie. L'évasion. De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Donc, il y avait veillé chez Pierre Morlaix, demeurant au coin de la rue des Voltigeurs. Et je vous promets que si jamais veillé fut joyeuse, ce fut celle-là. Dieu de Dieu, comme les langues fonctionnaient, de véritables machines à vapeur, quoi. Et les pieds et les mains, et tout ce qui avait don de vie. Les jeunes gens dansaient, et notre ami Pierre, assis sur la table, les jambes croisées, faisait l'orchestre à lui tout seul. Vaillant orchestre, sur ma parole, quoiqu'il ne se composât que d'un instrument, le violon de maître Pierre. « Et en avant, deux !» criait notre ménétrier, en se trémoussant à droite, à gauche, avec la frénésie d'un artiste consommé. Et les couples s'avançaient, souriant, babillant, rougissant, sautillant, se coudoyant, se poussant, se heurtant. Et il y avait plus de gaieté, plus d'entrain dans ce petit quadrille, exécuté au son d'une musique criarde, discordante, impitoyable, que dans les grands bals où l'on marche, le corps droit comme un i, les bras pendant le long des hanches, les jambes raides, compassées, aux accords d'une musique aride, difficile, savante. Et c'était de joyeuses exclamations, de vives interpellations, de bruyants propos, de frais éclats de rire, et, dominant le tout, la voix de Pierre reprenait « En avant les deux autres !» Puis venaient la gigue, les rilles, les cotillons, et tout cela sur quelques-uns de ces bons vieux airs de la vieille France, airs, à notre goût, 100 fois préférables à la plupart de ces compositions modernes qui n'ont d'autre mérite que de faire ressortir le travail de l'exécutant et de désespérer le danseur. Fin du chapitre 8 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 9 de la deuxième partie. L'évasion. De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Pendant que les jeunesses s'ébattaient, les commères causaient, groupées dans un coin.
« Tout de même que c'est honteux, pas vrai ?»
dit la vieille Madame Morlaix, en piquant son aiguille à tricoter dans ses cheveux.
« Oui, en effet, » répliqua Madame Raviot. « C'est pas pour dire, mais la fille au père Sauvageot portait des bracelets en or vrai, ça sent, hein ?»
« Moi, d'abord, je vas défendre à notre mari de voir cette coureuse, » ajouta une troisième. « Et que vous aurez raison, Mme Roger. C'est pas pour dire, mais ces créatures-là, hein. Car enfin, quand on porte des bracelets en or vrai, d'abord, elle n'était pas à la messe ce dernier dimanche.
Peut-être ben qu'elle était malade, » dit une âme plus charitable.
Malade? Ah oui, je t'en moque, mère Cadet. À preuve qu'elle n'était pas malade, c'est que je l'ai vue farauder tantôt dans la rue Saint-Jacques.
Et moi aussi. Il y avait un original qui la suivait par derrière, c'est pas pour dire. Mais il n'avait pas bonne façon, smirliflor là.
Je crée ben, puisque les vues et tout qui y parlaient.
Si j'avions une gourgandine comme Stella, moi et mon homme Jésus Sauveur, je saurions la remettre dans la bonne voie,
comme dit monsieur le curé.
C'est pas pour dire, mais elle n'est pas indifférente, la Victorine. Avec un petit brin de conduite, elle vous aurait trouvé un bon parti. Il y a des parents ben malheureux avec leurs enfants. Le père Roger, qui est un si honnête homme. Et sa femme, la meilleure femme de la ville, une travailleuse s'il y en a une. La coquine, déshonorée de si braves gens.
Ah, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de notre temps, dites donc, Mme Morlaix. Aurait fallu que nous afficotions comme les créatures d'Astor.
Ah ben oui, bonne sainte Anne, j'aurions pas été de la noce. C'est pas pour dire, mais si toutes les filles se conduisaient comme cette chère Angèle.
Pour le certain, Mme Roger, qu'Angèle est une fille modèle. C'est sage, sage comme une image.
Pauvre petite, ça n'a pourtant ni père ni mère.
Et depuis qu'elle peut gagner sa vie, elle n'est à charge à personne, dit la mère Morlaix. Elle est fière, dame. Notre Pierre l'a priée de rester chez nous, mais il n'y a pas eu moyen.
Ah, regardez-moi-la un peu danser. Que gentille tournure. Et de l'inducation, c'est pas pour dire. Mais vous l'avez joliment bien élevée, Mme Morlaix.
Pour le sûr, je n'avons pas gardé. C'est qu'aussite, elle apprenait comme un ange.
Bon, v'là le gros Jacques qui y parle à l'oreille. Je parie qu'il voudrait lui en compter.
Fin du chapitre 9 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 10 de la deuxième partie, L'évasion de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. La jeune fille, sur qui venait de tomber la conversation des bonnes dames, répondait en ce moment à une question de son cavalier.
« Non, monsieur Jacques, je ne puis consentir. »«
Mais, Angèle,
une autre que moi regarderait votre prière comme une insulte. Je veux bien vous excuser, mais de grâce, cessez. »«
Méchante, vous ne m'aimez pas. »«
Non, en vérité, pas ce soir. Fille, monsieur, vous devriez rougir de vos propositions. »«
Mais quel mal !»«
La pastourelle, à vous. »
Jacques, rongeant sa mauvaise humeur, fit quelques pas en avant, et retourna prendre sa partenaire pour la conduire à son vis-à-vis.
« Décidément, vous refusez ?» lui dit-il.
« Décidément, je refuse, et vous défends de renouveler vos tentatives, »
répliqua-t-elle d'un ton sec.
« Vous ne m'aimez pas. »
« Soit. »
La contredanse était achevée, et minuit sonnait.
« Allons, enfant, il est tard, »
dit une maman. « Il se fait temps de partir. »«
Encore une ronde, »
répondit en écho Pierre Morlaix, raclant sur son crin-crin le motif de la ronde. Déjà une gracieuse chaîne, aux anneaux féminins et masculins, s'était bouclée autour de la salle, et 12 gosiers, sonores et mélodieux, disaient « Avant que de nous quitter, il faut chacun contenter, contenter la chose est belle, entrez-y, mademoiselle, faites un tour, alentour, embrassez vos amours. » La versification n'était pas riche, mais ce refrain est si doux, si avenant. Et puis, nos veilleurs se moquaient pas mal de la prosodie. Jacques, à la 11e reprise, pénétra dans le cercle qui, tout aussitôt, tourbillonna vivement autour de lui. « Avant de nous quitter, il faut chacun contenter, contenter, etc. » Le couplet fini, Jacques hésita une seconde. Ses regards parcouraient l'écrin de beauté qui attendait qu'il fixât son choix. Son dépit le poussait à piquer la jalousie de son amante, mais son cœur fut meilleur conseiller, et le jeune homme s'approcha délibérément d'Angèle, à laquelle il dit en la baisant au front « Me pardonnez-vous ? »
« Vous ne le méritez guère. »
Fin du chapitre 10 de la deuxième partie, enregistrée par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 11 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. La veillée était terminée, on se sépara cordialement, le sourire aux lèvres, comme on s'était abordé. Les cavaliers reconduisirent leur belle, et Jacques accompagna son ami jusqu'à la rue du Loup. Là, ils se quittèrent. Angèle s'enfonça dans une allée sombre qui menait à son domicile, et, comme l'obscurité lui causait un certain effroi, elle rentra dans sa chambre en fredonnant. « À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée, il y a si longtemps que... » Mais à ce chant succéda tout à coup un cri d'épouvante. Le pied de la jeune fille avait rencontré un obstacle, et elle était tombée tout de son long sur un corps humide. Fin du chapitre 11 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010. Chapitre 12 de la deuxième partie, L'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. La peur est le fruit de la surprise soulevée à son plus haut degré. Nul au monde n'est exempt de ce mouvement de l'âme qui stupéfie les sens et désespère la raison. La peur se produit à chaque instant. Les philosophes stoïciens, qui s'exerçaient à l'insensibilité complète, eux qui étaient parvenus à glacer le rire, à dessécher la source des larmes, n'ont pu triompher de la peur. La peur est un des éléments de notre existence, puisque cette existence est un éternel composé d'espoir et de déception. Mais il y a deux sortes de peur. La peur subite, immédiate, instantanée, celle qui grossit les objets, leur donne une puissance ou des formes surnaturelles, anéantit spontanément les fonctions de notre intellect et parfois même les fonctions de notre organisme physique, et la peur qui se glisse dans les actes les plus ordinaires de la vie quand on désire la réussite ou l'insuccès d'une entreprise. Celle-ci est purement mentale. Toutefois, son prolongement peut aussi affecter plus ou moins l'économie animale. Celle-là est plutôt une sensation qu'un sentiment, car elle agit avec une violence extrême sur le corps. Les défaillances, la syncope, l'apoplexie, la folie, la mort en sont souvent les suites funestes. Fait étrange, les choses ou les êtres les plus communs peuvent provoquer la peur chez les plus grands génies. On en a vu s'évanouir à l'aspect d'une araignée, d'une grenouille, d'une souris, etc. Mais ce qui est plus propre à susciter cette passion, comme l'appelle La Fontaine, c'est l'apparition soudaine d'un cadavre. Il est peu de personnes qui, entrant par hasard dans une chambre et se trouvant face à face avec un individu mort, ne reculeront d'épouvante. Cette impression est plus vive encore lorsque l'obscurité nous environne, car la simple obscurité suffit pour engendrer la frayeur. Aussi, chère lectrice, je vous laisse à penser, après vous avoir demandé pardon de la précédente digression, je vous laisse à imaginer si mademoiselle Angèle se sentit terrifiée en tombant, au milieu d'épaisses ténèbres, sur un corps humide. Fin du chapitre 12 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en novembre 2010.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.